L'envers de l'histoire contemporaine, quatrième chapitre. Eh bien, dit Godefroy, dont la figure annonçait son désespoir, d'avoir été la cause de ce qui, dans cette sainte maison, pouvait s'appeler une catastrophe. J'attends que Manon vienne nous rassurer, répondit le bonhomme en écoutant le bruit des pas de la domestique dans l'escalier. Monsieur, madame va bien, monsieur l'abbé l'a trompé sur ce qu'on disait, dit Manon en jetant un regard presque courroucé sur Godefroy. « Mon Dieu !» s'écria ce pauvre jeune homme à qui des larmes vinrent aux yeux. « Allons, asseyez-vous, » lui dit Monsieur Alain en s'asseyant lui-même. Et il fit une pause en recueillant ses idées. « Je ne sais pas, » dit le bon vieillard, « si j'aurai le talent qu'exige une vie si cruellement éprouvée pour être racontée dignement. Vous m'excuserez quand vous ne trouverez pas la parole d'un si pauvre orateur à la mesure des actions et des catastrophes. Songez que je suis sorti du collège depuis longtemps, et que je suis l'enfant d'un siècle où l'on s'occupait plus de la pensée que de l'effet, un siècle prosaïque où l'on ne savait dire les choses que par leur nom. » Godefroy fit un mouvement d'adhésion où le bonhomme Alain put voir une admiration sincère et qui voulait dire « J'écoute ». Vous venez de le voir, mon jeune ami, reprit le vieillard. Il était impossible que vous restassiez plus longtemps parmi nous sans connaître quelques-unes des affreuses particularités de la vie de cette sainte femme. Il est des idées, des allusions, des paroles fatales qui sont complètement interdites dans cette maison, sous peine de rouvrir chez madame des blessures dont les douleurs, une ou deux fois renouvelées, pourraient la tuer. « Oh, mon Dieu !» s'écria Godefroy. « Qu'ai-je donc fait ?»« Sans Monsieur Joseph qui vous a coupé la parole, en pressentant que vous alliez vous occuper du fatal instrument de mort, vous alliez foudroyer cette pauvre madame. Il est temps que vous sachiez tout, car vous nous appartiendrez. Nous en avons aujourd'hui tous la conviction. » « Madame de la Chanterie, » dit-il après une pause, « est issue d'une des premières familles de la Basse-Normandie. Elle est en son nom Mademoiselle Barbe Philiberte de Champignelles, d'une branche cadette de cette maison. Aussi fut-elle destinée à prendre le voile, si son mariage ne pouvait se faire, avec les renonciations d'usage à la légitime, comme cela se pratiquait chez les familles pauvres. Un sieur de la Chanterie, dont la famille était tombée dans une profonde obscurité, quoiqu'elle date de la croisade de Philippe Auguste, voulut remonter au rang que lui méritait cette ancienneté dans la province de Normandie. Ce gentilhomme avait doublement dérogé, car il avait ramassé quelque 300 000 écus dans les fournitures des armées du roi lors de la guerre du Hanovre. Trop confiant dans de telles richesses, grossies par les rumeurs de la province, le fils menait à Paris une vie assez inquiétante pour un père de famille. Le mérite de Mademoiselle de Champignelles obtenait quelque célébrité dans le Bessin. Le vieillard, dont le petit fief de la Chanterie se trouve entre Caen et Saint-Lô, entendit déplorer devant lui qu'une si parfaite demoiselle, si capable de rendre un homme heureux, alla finir ses jours dans un couvent. Et, sur un désir qu'il témoigna de rechercher cette demoiselle, on lui donna l'espoir d'obtenir des Champignelles, pourvu que ce fût sans dot, la main de Mademoiselle Philiberte pour son fils. Il se rendit à Bayeux, il se ménagea quelques entrevues avec la famille de Champignelles, et fut séduit par les grandes qualités de la jeune personne. À 16 ans, Mademoiselle de Champignelles annonçait tout ce qu'elle devait être. On devinait en elle une piété solide, un bon sens inaltérable, une droiture inflexible, et l'une de ces âmes qui ne doivent jamais se détacher d'une affection, fut-elle ordonnée. Le vieux noble, enrichi par ses maltotes aux armées, aperçut en cette charmante fille la femme qui pouvait contenir son fils par l'autorité de la vertu, par l'ascendant d'un caractère ferme, sans raideur. Car, vous l'avez vu, nulle n'est plus douce que madame de la Chanterie. Mais aussi nulle ne fut plus confiante qu'elle. Elle a jusqu'au déclin de la vie la candeur de l'innocence. Elle ne voulait pas jadis croire au mal. Elle a dû le peu de défiance que vous lui connaissez à ses malheurs. Le vieillard s'engagea, vis-à-vis des Champignelles, à donner quittance au contrat de la légitime de mademoiselle Philiberte. Mais, en revanche, les Champignelles, alliées à de grandes maisons, promirent de faire ériger le fief de la Chanterie en baronnie, et ils tinrent parole. La tante du futur époux, madame de Boisfrelon, la femme du conseiller au Parlement, mort dans l'appartement que vous occupez, promit de léguer sa fortune à son neveu. Quand tous ces arrangements furent pris entre les deux familles, le père fit venir son fils. Maître des requêtes au Grand Conseil, et âgé de 25 ans au moment de son mariage, le jeune homme avait fait de nombreuses folies avec les jeunes seigneurs de l'époque, en vivant à leur manière. Aussi, le vieux maltôtier avait-il déjà plusieurs fois payé des dettes considérables. Ce pauvre père, en prévision de nouvelles fautes chez son fils, était assez enchanté de reconnaître à sa future belle-fille une certaine fortune. Mais il eut tant de méfiance qu'il substitua le fief de la Chanterie aux enfants mâles à naître du mariage. « La Révolution, dit le bonhomme Alain en forme de parenthèse, a rendu la précaution inutile. » Doué d'une beauté d'ange, d'une adresse merveilleuse à tous les exercices du corps, le jeune maître des requêtes possédait le don de séduction. Reprit-il. Mademoiselle de Champignelles devint donc, vous le croirez facilement, très éprise de son mari. Le vieillard, extrêmement heureux des commencements de ce mariage, et croyant à une réforme chez son fils, envoya lui-même les nouveaux mariés à Paris. Ceci se passait au commencement de l'année 1788. Ce fut presque une année de bonheur. Madame de la Chanterie connut les petits soins, les attentions les plus délicates qu'un homme plein d'amour puisse prodiguer à une femme aimée uniquement. Quelque courte qu'elle ait été, la lune de miel à lui sur le cœur de cette si noble et si malheureuse femme. Vous savez qu'alors, les mères nourrissaient elles-mêmes leurs enfants, et madame eut une fille. Cette période, pendant laquelle une femme devait être l'objet d'un redoublement de tendresse, fut au contraire le commencement de malheurs inouïs. Le maître des requêtes fut obligé de vendre tous les biens dont il pouvait disposer pour payer d'anciennes dettes qu'il n'avait pas avouées, et de nouvelles dettes de jeu. Puis, l'Assemblée nationale prononça bientôt la dissolution du Grand Conseil, du Parlement, de toutes les charges de justice, si chèrement achetées. Le jeune ménage, augmenté d'une fille, fut donc sans autre revenu que ceux des biens substitués et celui de la dot reconnue à madame de la Chanterie. En 20 mois, cette charmante femme, à l'âge de 17 ans et demi, se vit obligée de vivre, elle et la fille qu'elle nourrissait, du travail de ses mains, dans un obscur quartier où elle se retira. Elle se vit alors entièrement abandonnée de son mari, qui tomba de degrés en degrés dans la société des créatures de la plus mauvaise espèce. Jamais madame ne fit un reproche à son mari, jamais elle ne se donna le moindre tort. Elle nous a dit que, pendant ces mauvais jours, elle priait Dieu pour son cher Henri. Ce mauvais sujet s'appelait Henri, dit le bonhomme. C'est un nom à ne jamais prononcer, pas plus que celui d'Henriette. Je reprends. Ne quittant sa petite chambre de la rue de la Corderie du Temple que pour aller chercher sa subsistance ou son ouvrage, madame de la Chanterie suffisait à tout. Grâce à 100 livres par mois que son beau-père, touché de tant de vertu, lui faisait passer. Néanmoins, en prévoyant que cette ressource pourrait lui manquer, la pauvre jeune femme avait pris la dure profession de faiseuse de corsets et travaillait pour une célèbre couturière. En effet, le vieux traitant mourut et sa succession fut dévorée par son fils, à la faveur du renversement des lois de la monarchie. L'ancien maître des requêtes, devenu l'un des plus féroces présidents de tribunal révolutionnaire qui exista, fut la terreur de la Normandie et put ainsi satisfaire toutes ses passions. À son tour, emprisonné lors de la chute de Robespierre, la haine de son département le vouait à une mort certaine. Madame de la Chanterie apprend, par une lettre d'adieu, le sort qui attend son mari. Aussitôt, après avoir confié sa petite fille à une voisine, elle se rend dans la ville où le misérable était détenu, muni de quelques louis qui composaient sa fortune. Ces louis lui servirent à pénétrer dans la prison. Elle réussit à faire sauver son mari, qu'elle habille avec ses vêtements à elle, dans des circonstances presque semblables à celles qui, plus tard, servirent si bien Madame de Lavalette. Elle fut condamnée à mort, mais on eut honte de donner suite à cette vengeance, et le tribunal, jadis présidé par son mari, facilita sous main sa sortie de prison. Elle revint à Paris, à pied, sans secours, en couchant dans des fermes, et souvent nourrie par charité. « Mon Dieu ! » s'écria Godefroy. « Attendez ! » reprit le bonhomme. « Ce n'est rien. » En 8 ans, la pauvre femme revit 3 fois son mari. La première fois, monsieur resta 2 fois 24 heures dans le modeste logement de sa femme, et il lui prit tout son argent en la comblant de marques de tendresse et lui faisant croire à une conversion complète. « J'étais, dit-elle, sans force contre un homme pour qui je priais tous les jours et qui occupait exclusivement ma pensée. » La seconde fois, monsieur de la Chanterie arriva mourant. Et de quelle maladie ! Elle le soigna, le sauva. Puis elle essaya de le rendre à des sentiments et à une vie convenable. Après avoir promis tout ce que cet ange demandait, le révolutionnaire se replongea dans d'effroyables désordres et n'échappa même à l'action du ministère public qu'en venant se réfugier chez sa femme, où il mourut en sûreté. « Oh, ce n'est rien !» s'écria le bonhomme en voyant l'étonnement peint sur la figure de Godefroy. Personne dans le monde où il vivait ne savait cet homme marié. 2 ans après la mort du misérable, Madame de la Chanterie apprit qu'il existait une seconde Madame de la Chanterie, veuve comme elle et comme elle ruinée. Ce bigame avait trouvé 2 anges incapables de le trahir. Vers 1803, reprit M. Alain après une pause, M. de Boisfrelon, oncle de Madame de la Chanterie, ayant été rayé de la liste des émigrés, vint à Paris et lui remit une somme de 200 000 francs que lui avait jadis confiée le vieux traitant, avec mission de la garder pour les enfants de sa nièce. Il engagea la veuve à revenir en Normandie, où elle acheva l'éducation de sa fille, et où, toujours conseillée par l'ancien magistrat, elle acheta, dans d'excellentes conditions, une terre patrimoniale. « Ah ! » s'écria Godefroy. « Ce n'est rien encore, » dit le bonhomme Alain. « Vous n'êtes pas arrivé aux ouragans. » Je reprends. En 1807, après 4 années de repos, Madame de la Chanterie maria sa fille unique à un gentilhomme dont la piété, les antécédents, la fortune offraient des garanties de toute espèce. Un homme qui, selon le dicton populaire, était la coqueluche de la meilleure compagnie du chef-lieu de préfecture où madame et sa fille passaient l'hiver. Notez que cette compagnie se composait de 7 ou 8 familles, comptées dans la haute noblesse de France. Les d'Esgrignon, les Troisville, les Casterans, les Noîtres, etc. Au bout de 18 mois, cet homme laissa sa femme et disparut dans Paris, où il changea de nom. Madame de la Chanterie ne put apprendre les causes de cette séparation qu'à la clarté de la foudre et au milieu de la tempête. Sa fille, élevée avec des soins minutieux et dans les sentiments religieux les plus purs, garda sur cet événement un silence absolu. Ce défaut de confiance frappa sensiblement Madame de la Chanterie. Déjà plusieurs fois, elle avait reconnu dans sa fille quelques indices qui trahissaient le caractère aventureux du père, mais augmentés d'une fermeté presque virile. Ce mari s'en alla de son plein gré, laissant ses affaires dans une situation pitoyable. Madame de la Chanterie est encore étonnée aujourd'hui de cette catastrophe, à laquelle aucune puissance humaine n'aurait pu remédier. Les gens qu'elle consulta prudemment avaient tous dit que la fortune du futur était claire et liquide, en terre, sans hypothèque, alors que le bien se trouvait depuis 10 ans de voir au-delà de sa valeur. Aussi les immeubles furent-ils vendus et la pauvre mariée réduite à sa seule fortune, revint-elle chez sa mère. Madame de la Chanterie a su plus tard que cet homme avait été soutenu par les gens les plus honorables du pays dans l'intérêt de leurs créances, car ce misérable leur devait à tous des sommes plus ou moins considérables. Aussi, dès son arrivée dans la province, Madame de la Chanterie avait-elle été regardée comme une proie. Néanmoins, il y eut à cette catastrophe d'autres raisons qui vous seront révélées par une pièce confidentielle mise sous les yeux de l'empereur. Cet homme avait d'ailleurs depuis longtemps capté la bienveillance des sommités royalistes du département par son dévouement à la cause royale pendant les temps les plus orageux de la Révolution. Un des émissaires les plus actifs de Louis XVIII, il avait trempé, dès 1793, dans toutes les conspirations, en s'en retirant si savamment avec tant d'adresse qu'il finit par inspirer des soupçons. Remercié de ses services par Louis XVIII et mis en dehors de toute affaire, il était revenu dans ses propriétés déjà grevées depuis longtemps. Ses antécédents obscurs, alors, les initiés au secret du cabinet royal gardèrent le silence sur un si dangereux coopérateur, rendirent cet homme l'objet d'une espèce de culte dans une ville dévouée aux Bourbons, et où les moyens les plus cruels de la chouannerie étaient admis comme de bonne guerre. Les d'Esgrignon, les Casterans, le chevalier de Valois, enfin l'aristocratie et l'Église ouvrirent leurs bras à ce diplomate royaliste et le mirent dans leur giron. Cette protection fut corroborée du désir que les créanciers eurent d'être payés. Ce misérable, le pendant de feu de la Chanterie, sut se contenir durant 3 années. Il afficha la plus haute dévotion et imposa silence à ses vices. Pendant les premiers mois que les nouveaux mariés passèrent ensemble, il eut une espèce d'action sur sa femme. Il essaya de la corrompre par ses doctrines, si tant est que l'athéisme soit une doctrine, et par le ton plaisant avec lequel il parlait des principes les plus sacrés. Ce diplomate de bas étage eut, dès son retour au pays, une liaison intime avec un jeune homme, criblé de dettes comme lui, mais qui se recommandait par autant de franchise et de courage qu'il a montré, lui, d'hypocrisie et de lâcheté. Cet hôte, dont les agréments et le caractère, la vie aventureuse, devaient influencer une jeune fille, fut, entre les mains du mari, comme un instrument, et il s'en servit pour appuyer ses infâmes théories. Jamais la fille ne fit connaître à la mère l'abîme où le hasard l'avait jetée. Car il faut renoncer à parler de prudence humaine, en songeant aux minutieuses précautions prises par Madame de la Chanterie quand il fut question de marier sa fille unique. Ce dernier coup, dans une vie aussi dévouée, aussi pure, aussi religieuse que celle d'une femme éprouvée par tant de malheurs, rendit Madame de la Chanterie d'une défiance envers elle-même qui l'isola d'autant plus de sa fille que sa fille, en échange de sa mauvaise fortune, exigea presque sa liberté, domina sa mère et la brusqua même quelquefois. Atteinte ainsi dans toutes ses affections, trompée et dans son dévouement et dans son amour pour son mari, à qui elle avait sacrifié sans une plainte son bonheur, sa fortune et sa vie, trompée dans l'éducation exclusivement religieuse qu'elle avait donnée à sa fille, trompée par la société même dans l'affaire du mariage, et n'obtenant pas justice dans le cœur où elle n'avait semé que de bons sentiments, elle s'unit étroitement à Dieu, dont la main l'atteignait si fortement. Cette quasi-religieuse allait à l'église tous les matins. Elle accomplissait les austérités claustrales et faisait des économies pour soulager les pauvres. Y a-t-il, jusqu'à présent, une vie plus sainte et plus éprouvée que celle de cette noble femme, si douce avec l'infortune, si courageuse dans le danger et toujours si chrétienne ? Dit le bonhomme en regardant Godefroy étonné. Vous connaissez, madame. Vous savez si elle manque de sens, de jugement, de réflexion. Elle a toutes ses qualités au plus haut degré. Eh bien, ses malheurs, qui suffiraient à faire dire d'une existence qu'elle surpasse toutes les autres en adversité, ne sont rien en comparaison de ce que Dieu réservait à cette femme. Occupons-nous exclusivement de la fille de madame de la Chanterie, dit le bonhomme en reprenant son récit. À 18 ans, époque de son mariage, mademoiselle de la Chanterie, dit-il, était une jeune fille d'une complexion excessivement délicate, brune, à couleurs éclatantes, svelte et de la plus jolie figure. Au-dessus d'un front d'une forme élégante, on admirait les plus beaux cheveux noirs, en harmonie avec des yeux bruns et d'une expression gaie. Une sorte de mignardise dans la physionomie trompait sur son véritable caractère et sur sa mâle décision. Elle avait de petites mains, de petits pieds, quelque chose de mince, de frêle dans toute sa personne, qui excluait toute idée de force et de vivacité. Ayant toujours vécu près de sa mère, elle était d'une parfaite innocence de mœurs et d'une piété remarquable. Cette jeune personne, de même que madame de la Chanterie était attachée aux Bourbons jusqu'au fanatisme, ennemie de la Révolution française, et ne reconnaissait la domination de Napoléon que comme une plaie que la Providence infligeait à la France en punition des attentats de 1793. Cette conformité d'opinion de la belle-mère et du gendre fut, comme toujours en pareille occurrence, une raison déterminante pour le mariage, auquel s'intéressa d'ailleurs toute l'aristocratie du pays. L'ami de ce misérable avait commandé, lors de la reprise des hostilités en 1799, une bande de chouans. Il paraît que le baron, le gendre de madame de la Chanterie était baron, n'avait d'autre dessein, en liant sa femme et son ami, que de se servir de cette affection pour leur demander aide et secours. Quoique criblé de dettes et sans moyens d'existence, ce jeune aventurier vivait très bien et pouvait en effet facilement secourir le fauteur des conspirations royalistes. Ceci veut quelques mots sur une association qui fit dans ce temps bien du tapage, dit M. Alain en interrompant son récit. Je veux vous parler des chauffeurs. Chaque province de l'Ouest fut alors plus ou moins atteinte par ces brigandages, dont l'objet était beaucoup moins le pillage qu'une résurrection de la guerre royaliste. On profita, dit-on, du grand nombre de réfractaires à la loi sur la conscription, exécutée alors, comme vous le savez, jusqu'à l'abus. Entre Mortagne et Rennes, au-delà même et jusque sur les bords de la Loire, il y eut des expéditions nocturnes qui, dans cette portion de la Normandie, frappèrent principalement sur les détenteurs de biens nationaux. Ces bandes répandirent une terreur profonde dans les campagnes. Ce n'est pas vous tromper que de vous faire observer que dans certains départements, l'action de la justice fut pendant longtemps paralysée. Ces derniers retentissements de la guerre civile ne firent pas autant de bruit que vous pourriez le croire. Habitués que nous sommes aujourd'hui à l'effrayante publicité donnée par la presse aux moindres procès politiques ou particuliers. Le système du gouvernement impérial était celui de tous les gouvernements absolus. La censure ne laissait rien publier de tout ce qui concernait la politique, excepté les faits accomplis, Et encore était-il travesti. Si vous vous donniez la peine de feuilleter le Moniteur, les autres journaux existants et même ceux de l'Ouest, vous ne trouveriez pas un mot des 4 ou 5 procès criminels qui coûtèrent la vie à 60 ou 80 brigands. Ce nom, donné pendant l'époque révolutionnaire aux Vendéens, aux Chouans et à tous ceux qui prirent les armes pour la maison de Bourbon, fut maintenu judiciairement sous l'Empire aux royalistes victimes de quelques complots isolés. Pour quelques caractères passionnés, l'empereur et son gouvernement, c'était l'ennemi. Tout paraissait être de bonne prise de ce qui se prenait sur lui. Je vous explique ces opinions sans prétendre vous les justifier. Et je reprends. Maintenant, dit-il après une de ces pauses nécessaires dans les longs récits, admettez de ces royalistes ruinés par la guerre civile de 1793, soumis à des passions violentes. Admettez des natures d'exception, dévorées de besoins, comme celle du gendre de Madame de la Chanterie et de cet ancien chef. Et vous pourrez comprendre comment ils pouvaient se décider à commettre, dans leur intérêt particulier, les actes de brigandage que leur opinion politique autorisait contre le gouvernement impérial au profit de la bonne cause. Ce jeune chef s'occupait donc à ranimer les brandons de la chouannerie pour agir au moment opportun. Il y eut alors une crise terrible pour l'empereur, quand, enfermé dans l'île de Lobo, il parut devoir succomber à l'attaque simultanée de l'Angleterre et de l'Autriche. La victoire de Wagram rendit la conspiration faite à l'intérieur à peu près inutile. Cette espérance d'allumer la guerre civile en Bretagne, en Vendée et dans une partie de la Normandie eut une fatale coïncidence avec le dérangement des affaires du baron, qui se flatta de faire entreprendre une expédition dont les profits seraient exclusivement appliqués à sauver ses propriétés. Par un sentiment plein de noblesse, sa femme et son ami refusèrent de détourner, dans un intérêt privé, les sommes à prendre à main armée aux recettes de l'État, et destinées à solder les réfractaires et les chouans, à se procurer des armes et des munitions pour opérer une levée de boucliers. Quand, après des discussions envenimées, le jeune chef, appuyé par la femme, eut refusé positivement au mari de lui réserver 100 000 francs en écus, dont le recouvrement allait se faire pour le compte de l'armée royale sur une des recettes générales de l'Ouest, le baron disparut pour éviter les ardentes poursuites de plusieurs prises de corps. Les créanciers en voulaient au bien de la femme, et ce misérable avait tari la source de l'intérêt qui porte une épouse à se sacrifier à son mari. Voilà ce qu'ignorait la pauvre Madame de la Chanterie. Mais ceci n'est rien en comparaison de la trame cachée sous cette explication préliminaire. Ce soir, dit le bonhomme après avoir regardé l'heure à sa petite pendule, l'heure est déjà trop avancée, et nous en aurions pour trop longtemps si je voulais vous raconter le reste de cette histoire. Le vieux Bordin, mon ami, que la conduite du fameux procès Simeuse avait illustré dans le parti royaliste et qui plaida dans l'affaire criminelle dite des chauffeurs de Mortagne, m'a, lors de mon installation ici, communiqué 2 pièces que j'ai gardées, car il mourut quelque temps après. Vous y trouverez les faits beaucoup plus succinctement rédigés que je ne pourrais vous les dire. Ces faits sont si nombreux que je me perdrai dans les détails, et j'en aurai pour plus de 2 heures à parler. Tandis que là, vous les aurez sous une forme sommaire. Demain matin, je vous achèverai ce qui concerne Madame de la Chanterie, car vous serez assez instruit par cette lecture pour que je puisse finir en quelques mots. Le bonhomme remit des papiers jaunis par le temps à Godefroy, qui, après avoir souhaité le bonsoir à son voisin, se retira dans sa chambre, où il lut, avant de s'endormir, les 2 pièces que voici. Acte d'accusation. Cour de justice criminelle et spéciale du département de l'Orne. Le procureur général, près la cour impériale de Caen, nommé pour remplir ses fonctions auprès de la cour criminelle spéciale établie par décret impérial en date de septembre 1809 et siégeant à Alençon, exposa à la cour les faits suivants, lesquels résultent de la procédure. Un complot de brigandage, conçu de longue main avec une profondeur inouïe et qui se rattache à un plan de soulèvement des départements de l'Ouest, a éclaté par plusieurs attentats contre des citoyens et leurs propriétés, mais notamment par l'attaque et le vol à main armée d'une voiture qui transportait le 11 mai 1801 la recette de Caen pour le compte de l'État. Cet attentat, qui rappelle les déplorables souvenirs d'une guerre civile si heureusement éteinte, a reproduit les conceptions d'une scélératesse que la flagrance des passions ne justifiait plus. De l'origine au résultat, la trame est compliquée, les détails sont nombreux. L'instruction a duré plus d'une année. Mais l'évidence, attachée à tous les pas du crime, en a éclairé les préparatifs, l'exécution et les suites. La pensée du complot appartient au nommé Charles Amédée Louis Joseph Rifoel, se disant chevalier du Vissard, né au Vissard, commune de Saint-Mexme, près Ernée, ancien chef de rebelles. Ce coupable, à qui Sa Majesté l'Empereur et roi avaient fait grâce lors de la pacification définitive, et qui n'a reconnu la magnanimité du souverain que par des nouveaux crimes, a subi déjà par le dernier supplice le châtiment dû à tant de forfaits. Mais il est nécessaire de rappeler quelques-unes de ses actions, car il a influé sur les coupables actuellement déférés à la justice, et il se rattache à chaque particularité du procès. Ce dangereux agitateur, caché, selon l'habitude des rebelles, sous le nom de Pierrot, errait dans les départements de l'Ouest, en y recueillant les éléments d'une nouvelle révolte. Mais son asile le plus sûr fut le château de Saint-Savin, résidence d'une dame Lechantre et de sa fille, la dame Brion, si commune de Saint-Savin, arrondissement de Mortagne. Ce point stratégique se rattache au plus affreux souvenir de la rébellion de 1799. Là, le courrier fut assassiné, sa voiture pillée par une bande de brigands sous le commandement d'une femme, aidée par le trop fameux marche-à-terre. Ainsi, dans ces lieux, le brigandage est en quelque sorte endémique. Une intimité que nous n'essaierons pas de qualifier existait depuis plus d'un an entre la dame Brion et ce nommé Rifoel. Ce fut dans cette commune qu'eut lieu, dès le mois d'avril 1808, une entrevue entre Rifoel et le nommé Boislaurier, chef supérieur et connu sous le nom d'Auguste dans les funestes rébellions de l'Ouest, dont l'esprit a dirigé l'affaire actuelle déférée à la cour. Ce point obscur des relations de ces deux chefs, victorieusement établi par de nombreux témoins, a d'ailleurs l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de condamnation de Rifoel. Ce Boislaurier s'étant dit dès ce temps avec Rifoel pour agir de concert. Tous deux, et seuls d'abord, ils se communiquèrent leurs atroces projets, inspirés par l'absence de Sa Majesté impériale et royale, qui commandait alors ses armées en Espagne. Dès cette époque, ils durent arrêter, comme base fondamentale de leurs opérations, l'enlèvement des recettes de l'État. Quelque temps après, le nommé Dubut de Caen expédie au château de Saint-Savin un émissaire, le nommé Hillet, dit le laboureur, connu depuis longtemps comme voleur de diligence, pour donner des renseignements sur les hommes auxquels on pourrait se fier. Ce fut ainsi que, par l'intervention de Hillet, le complot acquit dès l'origine la coopération du nommé Herbaumé, surnommé le général Hardy, ancien rebelle de la même trempe que Rifoel, et comme lui, parjure à l'amnistie. Herbaumé et Hillet recrutèrent alors dans les communes environnantes 7 bandits qu'il faut se hâter de faire connaître, et qui sont, premièrement, Jean Cibot, dit Pimiche, l'un des plus hardis brigands du corps formé par Montauran en l'an 7, l'un des auteurs de l'attaque et de la mort du courrier de Mortagne. Deuxièmement, François Lisieux, surnommé le grand-fils, réfractaire du département de la Mayenne. Troisièmement, Charles Grenier, dit Fleur de Genêt, déserteur de la 69e demi-brigade. Quatrièmement, Gabriel Bruce, dit Gros-Jean, un des chouans les plus féroces de la division Fontaine. Cinquièmement, Jacques Auraud, dit le Stuart, ex-lieutenant de la même demi-brigade, l'un des affidés de Tinténiac, assez connu par sa participation à l'expédition de Quiberon. Sixièmement, Marie-Anne Cabot, dit la Jeunesse, ancien piqueur du sieur Carole d'Alençon. Septièmement, Louis Minard, réfractaire. Ces enrôlés furent logés dans trois communes différentes, chez les nommés Binet, Mélin et La Ravinière, aubergistes ou cabaretiers, tous dévoués à Rifoël. Les armes nécessaires furent aussitôt fournies par le sieur Jean-François Léveillé, notaire, incorrigible correspondant des brigands, le lien intermédiaire entre eux et plusieurs chefs cachés, surnommé le confesseur. Enfin, par le nommé Félix Courseuil, ancien chirurgien des armées rebelles de la Vendée, tous deux d'Alençon. 11 fusils furent cachés dans la maison que possédait le sieur dans le faubourg d'Alençon, et à son insu, car il habitait alors sa campagne entre Alençon et Mortagne. Lorsque le sieur Brion quitta sa femme, en l'abandonnant à elle-même dans la fatale route qu'elle devait parcourir, ses fusils, retirés mystérieusement de la maison, furent transportés par la dame Brion elle-même dans sa voiture au château de Saint-Savin. Ce fut alors qu'eurent lieu dans le département de l'Orne et les départements circonvoisins ces faits de brigandage qui ne surprirent pas moins les autorités que les habitants de ces contrées, depuis si longtemps paisibles, et qui prouvent que ces détestables ennemis du gouvernement et de l'Empire français avaient été mis dans le secret de la coalition de 1809 par leurs intelligences avec l'étranger. Le notaire Léveillé, la dame Brion, Dubu de Caen, Herbaumet de Mayenne, Bois-Laurier du Mans et Rifoël furent donc les chefs de l'association, à laquelle adhérèrent les coupables, déjà punis par l'arrêt qui les a frappés avec Rifoël, ceux qui sont l'objet de la présente accusation, et plusieurs autres, qui se sont dérobés par la fuite ou par le silence de leurs complices à l'action de la vindicte publique. Ce fut Dubu qui, domicilié près de Caen, signala l'envoi de la recette au notaire Léveillé. Dès lors, Dubu fait plusieurs voyages de Caen à Mortagne, et Léveillé se montre également sur les routes. Il faut remarquer ici que lors du déplacement des fusils, Léveillé, qui vint voir Bruce, Grenier et Cibot dans la maison de Mélin, les ayant trouvés qui arrangeaient les fusils sous un appentis intérieur, aida lui-même à cette opération. Un rendez-vous général fut pris à Mortagne, à l'hôtel de l'Écu de France. Tous les accusés s'y rencontrèrent sous des déguisements différents. Ce fut alors que Léveillé, la dame Brion, Dubu, Herbaumet, Bois-Laurier et Hillet, le plus habile des complices secondaires, comme Cibot en est le plus hardi, s'assurèrent de la coopération du nommé Vautier, dit Vieux Chêne, ancien domestique du fameux Longhi, valet d'écurie de l'hôtel. Vautier consentit à prévenir la dame Brion du passage de la voiture de la recette, qui s'arrête ordinairement à cet hôtel. Le moment arriva bientôt d'opérer la réunion des brigands recrutés et qu'on avait dispersés dans plusieurs logis, tantôt dans une commune et tantôt dans une autre, par les soins de Courseuil et de Léveillé. Cette réunion s'effectue sous les auspices de la dame Brion, qui fournit une nouvelle retraite aux brigands dans une partie inhabitée du château de Saint-Savin, où elle demeurait près de sa mère, à quelques lieues de Mortagne, depuis sa séparation d'avec son mari. Les brigands, ilés à leur tête, s'y établissent et passent plusieurs jours. La dame Brion a soin de préparer elle-même, avec la fille Godard, sa femme de chambre, toutes les choses nécessaires au coucher et à la nourriture de pareils hôtes. Elle fait porter à ce dessein des bottes de foin, elle visite les brigands dans l'asile qu'elle leur procure et y retourne plusieurs fois avec l'éveillé. Les provisions et les vivres furent apportés sous la direction et par les soins de Courseuil, qui recevait les ordres de Rifoël et de Bois-Laurier. L'expédition principale se caractérise, l'armement est accompli. Les brigands quittent leur retraite de Saint-Savin, ils opèrent nuitamment en attendant le passage de la Recette, et le pays est épouvanté de leurs agressions réitérées. Il est indubitable que les attentats commis à la Sartinière, à Vonnet, au château de Saint-Cenis furent commis par cette bande, dont l'audace égale la scélératesse, et qui sut imprimer une si grande terreur que leurs victimes gardèrent tout le silence, en sorte que la justice s'est arrêtée à des présomptions. Mais, tout en mettant à contribution les acquéreurs de biens nationaux, ces brigands exploraient avec soin le bois de Chesnay, choisi pour être le théâtre de leurs crimes. Non loin de là se trouve le village de Louvigny. Une auberge y est tenue par les frères Chaussard, anciens gardes-chasse de la terre de Troisville, qui va servir de rendez-vous final aux brigands. Les deux frères connaissaient d'avance le rôle qu'ils devaient jouer. Courseuil et Bois-Laurier leur avaient fait depuis longtemps des ouvertures pour ranimer leur haine contre le gouvernement de notre auguste empereur, en leur annonçant que parmi les hôtes qui leur viendraient se trouveraient des hommes de leur connaissance, le redoutable Hillet et le non moins redoutable Cibot. En effet, le 6, les sept bandits, sous la conduite de Hillet, arrivent chez les frères Chaussard, et ils y passent 2 jours. Le chef, le 8, emmène son monde en disant qu'ils vont à 3 lieues, et il commande aux deux frères de leur procurer des subsistances qui furent portées à un embranchement peu distant du village. Il y revint coucher seul. 2 hommes à cheval, qui doivent être la dame Brion et Rifoël, car il est avéré que cette dame accompagnait Rifoël dans ses expéditions, à cheval et déguisé en homme, arrivent dans la soirée et s'entretiennent avec Hillet. Le lendemain, Hillet écrit une lettre au notaire Léveillé, que l'un des frères Chaussard porte, et il rapporte aussitôt une réponse. 2 heures après, la dame Brion et Rifoël, à cheval, viennent parler à Hillet. De toutes ces conférences, de ces allées et venues, il résulte la nécessité d'avoir une hache pour briser les caisses. Le notaire reconduit la dame Brion à Saint-Savin, et l'on y cherche vainement une hache. Le notaire revient, et à moitié route il rencontre Hillet, à qui il venait annoncer que l'on n'avait point de hache. Hillet revient à l'auberge. Il y demande un souper pour 10 personnes, et il introduit les 7 brigands, tous armés cette fois. Il y fait déposer militairement les armes. On s'assied à table, on soupe à la hâte, et il y demande qu'on lui fournisse des aliments en abondance pour les emporter. Puis il prend à part Chaussard l'aîné pour lui demander une hache. L'aubergiste, étonné, s'il faut l'en croire, se refuse à la donner. Courseuil et Bois-Laurier arrivent. La nuit s'écoule, et ces 3 hommes la passèrent à marcher dans la chambre en s'entretenant de leur complot. Courseuil, dit le confesseur, le plus subtil de tous ces brigands, s'empare d'une hache. Et, sur les 2 heures du matin, tous sortent par des issues différentes. Les moments acquéraient du prix. L'exécution du forfait était fixée à ce jour fatal. Hillet, Courseuil, Bois-Laurier amènent et placent leur monde. Hillet s'embusque avec Minard, Cabot et Bruce, à droite du bois de Chesnay. Bois-Laurier, Grenier et Aurot se mettent au centre. Courseuil, Herbaumet et Lisieux se tiennent au défilé de la lisière. Toutes ces positions sont indiquées sur le plan géométral dressé par l'ingénieur du cadastre et joint aux pièces. Cependant, la voiture, partie de Mortagne vers 1 heure du matin, était conduite par le nommé Rousseau, que les événements accusent assez pour que son arrestation ait paru nécessaire. La voiture, menée lentement, devait arriver vers 3 heures dans le bois du Chesnay. Un seul gendarme escortait la voiture. On devait aller déjeuner à Donnery. 3 voyageurs faisaient par occasion route avec le gendarme. Le voiturier, qui avait marché très lentement avec eux, arrivé au pont de Chesnay, à l'entrée du bois de ce nom, pousse ses chevaux avec une vigueur et une vivacité qui fut remarquée, et il se jette dans un chemin de détour qu'on appelle le chemin de Sanzé. La voiture échappe au regard, Sa direction n'est indiquée que par le bruit des grelots. Le gendarme et les jeunes gens hâtent le pas pour la rejoindre. Un cri part. Ce cri, c'est « Halte là, coquin !» Quatre coups de fusil sont tirés. Le gendarme, n'étant pas atteint, tire son sabre et court dans la direction qu'il suppose prise par la voiture. Il est arrêté par quatre hommes armés qui font feu sur lui. Son ardeur le préserve, car il s'élance pour dire à l'un des jeunes gens d'aller faire sonner le tocsin au chaîné. Mais deux brigands fondent sur lui et le couchent en joue. Il est forcé de faire quelques pas en arrière et reçoit alors dans l'aisselle gauche, au moment où il veut observer le bois, une balle qui lui a cassé le bras. Il tombe et se trouve soudain hors de combat. Les cris et la fusillade avaient retenti à Donnery. Le brigadier et un des gendarmes de cette résidence accourent. Un feu de peloton les amène du côté du bois opposé à celui où se passait la scène de pillage. Le gendarme essaie de pousser des cris pour intimider les brigands et simule par ses clameurs l'arrivée de secours fictifs. Il crie « En avant ! Par là, le premier peloton ! Nous les tenons ! Par là, le second peloton !» Les brigands de leur côté crient « Aux armes ! Ici, camarades, des hommes, au plus tôt !» Le fracas des décharges ne permet pas au brigadier d'entendre les cris du gendarme blessé, ni d'aider à la manœuvre semblable par laquelle l'autre gendarme tenait les brigands en échec. Mais il put distinguer un bruit rapproché de lui, provenant du brisement et de l'enfoncement des caisses. Il s'avance de ce côté, quatre bandits armés le tenant en arrêt. Il leur crie « Rendez-vous, scélérat !» Ceux-ci répliquent « N'approche pas, ou tu es mort !» Le brigadier s'élance, deux coups d'arme à feu sont tirés, et il est atteint. Une balle lui traverse la jambe gauche et pénètre dans les flancs de son cheval. Le brave soldat, baigné dans son sang, est forcé de quitter cette lutte inégale, et il crie, mais en vain, « À moi ! Les brigands sont au quai !» Les bandits, restés maîtres du terrain grâce à leur nombre, fouillent la voiture, placée à dessein dans un ravin. Ils avaient volé, par feinte, la tête au voiturier. On défonce les caisses, les sacs d'argent jonchent le terrain. Les chevaux de la voiture sont dételés et le numéraire est chargé sur les chevaux. On dédaigne 3 000 francs de billon et une somme de 103 000 francs est enlevée sur quatre chevaux. On se dirige sur le hameau de Menneville qui touche au bourg de Saint-Savin. La horde et le butin s'arrêtent à une maison isolée appartenant aux frères Chaussard et où demeure leur oncle, le nommé Bourget, confident du projet dès l'origine. Ce vieillard, aidé par sa femme, accueille les brigands, leur recommande le silence, décharge l'argent, va leur tirer à boire. La femme était comme en sentinelle auprès du château. Le vieillard dételle les chevaux, les ramène au bois, les rend au voiturier, délivre deux des jeunes gens qu'on avait garrottés, ainsi que le complaisant voiturier. Après s'être reposés à la hâte, les bandits se remettent en route. Courseuil, Ilet, Bois-Laurier passent leurs complices en revue, et après avoir délivré de faibles et maudites rétributions à chacun d'eux, la bande s'enfuit chacun de son côté. Arrivés à un endroit nommé le Champ Landry, ces malfaiteurs, obéissant à cette voie qui précipite tous les misérables dans les contradictions et les faux calculs du crime, jettent leurs fusils dans un champ de blé. Cette action, faite en commun, est le dernier signe de leur mutuelle intelligence. Frappés de terreur par la hardiesse de leur attentat et par le succès même, ils se dispersent. Le vol, une fois accompli avec les caractères de l'assassinat et de l'attaque à main armée, l'enchaînement d'autres faits se prépare et d'autres acteurs vont agir à propos du recel du vol et de sa destination. Rifoel, caché dans Paris, d'où sa main dirigeait chaque fil de cette trame, transmet à l'éveillé l'ordre de lui faire tenir au plus vite 50 000 francs. Courseuil, propre à toutes les combinaisons de ses forfaits, avait déjà dépêché Ilet pour instruire l'éveillé de la réussite et de son arrivée à Mortagne. L'éveillé s'y rend. Vautier, sur la fidélité de qui l'on croit pouvoir compter, se charge d'aller trouver l'oncle des Chaussards. Il arrive à cette maison, le vieillard lui dit qu'il doit s'adresser à ses neveux, qui ont remis de fortes sommes à la dame Brion. Néanmoins, il lui dit d'attendre sur la route, et il lui donne un sac de 1200 francs que Vautier apporte à la dame le chantre pour sa fille. Sur l'instance de l'éveillé, Courceuil retourne chez Bourget, qui cette fois l'envoie chez ses neveux directement. Chaussard l'aîné emmène Vautier dans le bois, lui indique un arbre, et on y trouve un sac de 1000 francs enterré. Enfin, l'éveillé, il et Vautier font de nouveaux voyages, et chaque fois une somme minime, en comparaison de celle à laquelle se montre le vol, est donnée. Madame le chantre recevait ces sommes à Mortagne, et sur une lettre d'avis de sa fille, elle les transporte à Saint-Savin, où la dame Brion était revenue. Ce n'est pas ici l'instant d'examiner si la dame le chantre n'avait pas des connaissances antérieures du complot. Il suffit pour le moment de remarquer que cette dame quitte Mortagne pour venir à Saint-Savin la veille de l'exécution du crime, et en emmène sa fille. Que ces dames se rencontrent au milieu de la route et reviennent à Mortagne. Que le lendemain, le notaire, averti par Hillet, se rend d'Alençon à Mortagne, va sur le champ chez elle et les décide plus tard à transporter les fonds si péniblement obtenus des frères Chaussard et de Bourget dans une maison d'Alençon dont il sera bientôt question, celle du sieur Panier, négociant. La dame le chantre écrit au garde de Saint-Savin de la venir chercher, elle et sa fille, à Mortagne pour les conduire par la traverse vers Alençon. Ces fonds, montant en tout à 20 000 francs, sont chargés la nuit, et la fille Godard aide à ce chargement. Le notaire avait tracé l'itinéraire. On arrive à l'auberge d'un des affidés, le nommé Louis Chargegrain, dans la commune de Littré. Malgré les précautions prises par le notaire, qui vint au-devant de la carriole, il se trouva des témoins, et l'on vit descendre les porte-manteaux et les sacoches qui contenaient l'argent. Mais au moment où Courceuil et Hillet, déguisés en femmes, se concertaient sur une place d'Alençon avec le sieur Panier, trésorier des rebelles depuis 1794, et tout acquis à Rifoël, pour savoir comment faire passer à Rifoël la somme demandée, la terreur causée par les arrestations commencées, par les perquisitions, fut telle que la dame le chantre, troublée, alla de nuit en fugitive de l'auberge où elle était, emmenant sa fille par les chemins détournés, abandonnant le notaire l'éveillé, pour se réfugier dans les cachettes pratiquées au château de Saint-Savin. Les mêmes alarmes assiégeaient les autres coupables. Courceuil, Bois-Laurier et son parent Dubu changeaient 2000 francs d'écu contre de l'or chez un négociant et s'enfuyaient par la Bretagne en Angleterre. En arrivant à Saint-Savin, les dames Le Chantre et Brion apprennent l'arrestation de Bourget, celle du voiturier, celle des réfractaires. Les magistrats, la gendarmerie, les autorités frappaient des coups si sûrs qu'il parut urgent de soustraire la dame Brion aux investigations de la justice, car elle était l'objet du dévouement de tous ces malfaiteurs subjugués par elle. Aussi la dame Brion quitte-t-elle Saint-Savin et se cache-t-elle d'abord dans Alençon, où ses fidèles délibèrent et parviennent à la sceller dans la cave de Panier. Ici, de nouveaux incidents se développent. Depuis l'arrestation de Bourget et de sa femme, les Chaussards se refusaient à tout nouveau versement, en se prétendant trahis. Cette défection inattendue arrivait au moment où le plus urgent besoin d'argent se déclarait chez tous les complices, ne fût-ce que pour se mettre en sûreté. Rifoël avait soif d'argent. Hillet, Cibot, l'éveillé, commençaient à soupçonner les frères Chaussard. Ici se place un nouvel incident qui appelle les rigueurs de la justice. Deux gendarmes, chargés de découvrir la dame Brion, réussissent à pénétrer chez Panier. Ils y assistent à une délibération. Mais ces hommes, indignes de la confiance de leur chef, au lieu d'arrêter la dame Brion, succombent à ses séductions. Ces indignes militaires, nommés Ratel et Mallet, prodiguent à cette femme les marques du plus vif intérêt et s'offrent à la conduire sans danger auprès des Chaussards pour les forcer à restitution. La dame Brion part sur un cheval, déguisée en homme, accompagné de Ratel, de Mallet et de la fille Godard. Elle fait la route de nuit. Elle arrive, elle a seule avec l'un des frères Chaussard une conférence animée. Elle s'était armée d'un pistolet, décidée à brûler la cervelle à son complice en cas de refus. Mais elle se fait conduire dans le bois et en revient avec une lourde sacoche. Au retour, elle trouve du billon et des pièces de 12 sous pour une valeur de 1500 francs. On propose alors une descente de tous les complices qui peuvent être réunis chez les Chaussard pour s'emparer d'eux et les soumettre à des tortures. Panier, apprenant cet insuccès, entre en fureur. Il éclate en menaces. Et la dame Brion, quoique le menaçant à son tour de la colère de Rifoël, est forcée de fuir. Tous ces détails sont dus aux aveux de Ratel. Mallet, touché de cette situation, propose un asile à la dame Brion. Tous vont coucher dans le bois de Troisville. Puis Mallet et Ratel, accompagnés de Hillet et de Cibot, se rendent la nuit chez les frères Chaussard. Mais cette fois, ils apprennent que les deux frères ont quitté le pays, que le reste de l'argent est certainement déplacé. Ce fut le dernier effort du complot pour faire le recouvrement des deniers du vol. Maintenant, il convient d'établir la part caractéristique de chacun des auteurs de cet attentat. Dubu, Bois-Laurier, Gentil, Herbaumé, Courseuil et Hillet sont les chefs, les uns délibérant, les autres agissant. Bois-Laurier, Dubu et Courseuil, tous trois fugitifs et contumaces, sont des habitués de rébellion, des fauteurs de troubles, les implacables ennemis de Napoléon le Grand, de ses victoires, de sa dynastie et de son gouvernement, de nos nouvelles lois, de la constitution de l'Empire. Herbaumé et Hillet ont audacieusement exécuté, comme bras, ce qu'ils avaient conçu comme tête. La culpabilité des 7 instruments du crime, de Cibot, Lisieux, Grenier, Bruce, Aureau, Cabot, Minard, est évidente. Elle ressort des aveux de ceux d'entre eux qui sont sous la main de la justice, car Lisieux est mort pendant l'instruction et Bruce est contumace. La conduite tenue par Rousseau, le voiturier, est empreinte de complicité. Sa lenteur pendant la route, la précipitation avec laquelle il a excité ses chevaux à l'entrée du bois, sa persévérance à soutenir qu'il avait eu la tête voilée, tandis que le chef des brigands lui fit ôter son mouchoir en lui disant de les reconnaître, selon le témoignage des jeunes gens, toutes ces particularités sont de violentes présomptions de connivence. Quant à la dame Brion, au notaire l'éveillé, quelle complicité fut plus connexe, plus continue que la leur? Ils ont constamment fourni les moyens du crime. Ils l'ont connu, secouru. L'éveillé voyageait à tout propos. La dame Brion inventait stratagème sur stratagème. Elle a risqué tout, jusqu'à sa vie, pour assurer la rentrée des fonds. Elle prête son château, sa voiture. Elle est dans le complot dès l'origine. Elle n'en a pas détourné le principal chef quand elle pouvait employer sa coupable influence à l'empêcher. Elle a entraîné sa femme de chambre, la fille Godard. L'éveillé a si bien trempé dans l'exécution qu'il a cherché à procurer la hache que demandaient les brigands. La femme Bourget, Vautier, les Chaussard, Panier, la dame Le Chantre, Mallet et Ratel ont tous participé au crime à des degrés différents, ainsi que les aubergistes Melun, Binet, La Ravinière et Chargegrain. Bourget est mort pendant l'instruction, après avoir fait des aveux qui ôtent toute incertitude sur la part prise par Vautier par la dame Brion. Et s'il a tâché d'atténuer les charges qui pèsent sur sa femme et sur son neveu Chaussard, les motifs de ses réticences sont faciles à comprendre. Mais les Chaussard ont sciemment nourri les brigands. Ils les ont vus armés, ils ont été témoins de toutes leurs dispositions, et ils ont laissé prendre la hache nécessaire au brisement des caisses, en sachant quel en était l'usage. Enfin, ils ont recélé, ont vu porter des sommes provenant du vol, et ils en ont caché, dissipé la plus forte part. Panier, ancien trésorier des rebelles, a caché la dame Brion. Il est l'un des plus dangereux complices de ce crime. Il le connaissait dès l'origine. À lui commencent des relations inconnues et qui restent obscures, mais que la justice surveillera. C'est le fidèle de Rifoel, le dépositaire des secrets du parti contre-révolutionnaire dans l'Ouest. Il a regretté que Rifoel ait introduit dans le complot des femmes et se soit confié à elles. Il a envoyé des sommes à Rifoel et il a recelé l'argent du vol. Quant à la conduite des deux gendarmes, Ratel et Mallet, elles méritent les dernières rigueurs de la justice. Ils ont trahi leur devoir. L'un d'eux, prévoyant son sort, s'est suicidé, mais après avoir fait d'importantes révélations. L'autre, Mallet, n'a rien nié. Ses aveux épargnent toute incertitude. La dame Le Chantre, malgré ses constantes dénégations, a tout connu. L'hypocrisie de cette femme, qui tâche d'abriter sa prétendue innocence sous les pratiques d'une menteuse dévotion, a des antécédents qui prouvent sa décision, son intrépidité dans les cas extrêmes. Elle allègue qu'elle a été trompée par sa fille, qu'elle croyait qu'il s'agissait de fonds appartenant au sieur Brion. Ruse grossière. Si le sieur Brion avait eu des fonds, il n'eût pas quitté le pays pour éviter d'être témoin de sa déconfiture. La dame Le Chantre fut rassurée contre la honte du vol, quand elle le vit approuvé par son allié Bois-Laurier. Mais comment explique-t-elle la présence de Rifoel à Saint-Savin, les courses et les relations de ce jeune homme avec sa fille, le séjour des brigands servi par la fille Godard, par la dame Brion? Elle allègue un profond sommeil. Elle se retranche dans une prétendue habitude de se coucher à 7 heures du soir. Et elle ne sait que répondre quand le magistrat instructeur lui fait observer qu'alors elle se levait au jour, et qu'au jour elle devait apercevoir quelques traces du complot et du séjour de tant de gens, s'inquiéter des sorties et des rentrées nocturnes de sa fille. Elle objecte alors qu'elle était en prière. Cette femme est un modèle d'hypocrisie. Enfin, son voyage le jour du crime, le soin qu'elle prend d'emmener sa fille à Mortagne, sa course avec l'argent, sa fuite précipitée quand tout est découvert, le soin qu'elle prend de se cacher, les circonstances mêmes de son arrestation, tout prouve une complicité de longue main. Elle n'a pas agi en mère qui veut éclairer sa fille et l'arracher à son danger, mais en complice qui tremble. Et sa complicité n'a pas été l'égarement de la tendresse. Elle est le fruit de l'esprit de parti, l'inspiration d'une haine connue contre le gouvernement de Sa Majesté impériale et royale. Un égarement maternel ne l'excuserait pas, d'ailleurs. Et nous ne devons pas oublier que le consentement de longue date prémédité doit être le signe le plus évident de la complicité. Ainsi que les éléments du crime, ses artisans sont à découvert. On voit le monstrueux assemblage des délires d'une faction avec les amorces de la rapine, l'assassinat conseillé par l'esprit de parti, sous l'égide duquel on essaie de se justifier à soi-même les plus ignobles excès. La voix des chefs donne le signal du pillage des deniers publics pour solder des crimes ultérieurs. De vils et farouches stipendiaires l'effectuent à bas prix, ne reculent pas devant l'assassinat. Et des fauteurs de rébellion, non moins coupables, aident au partage, au recel du butin. Quelle société tolérerait de pareils attentats? La justice n'a pas assez de rigueur pour les punir. Sur quoi? La Cour de justice criminelle et spéciale aura à décider s'il est nommé Herbomé, Hillé, Cibot, Grenier, Oro, Cabot, Minard, Melun, Binet, Laravinière, Rousseau, Femme Brion, L'Éveillé, Femme Bourget, Vautier, Chaussard-Aîné, Panier, Veuve Le Chantre, Mallet, tous ci-dessus dénommés et qualifiés, accusés présents, et les nommés Bois-Laurier, Duby, Courseuil, Bruce, Chaussard-Cadet, Charge-Grain, Fille Godard, ces derniers absents et fugitifs, sont ou ne sont pas coupables des faits mentionnés dans le présent acte d'accusation. Fait à Caen, au parquet, ce 1er décembre 1801. Signé Baron Bourlac.